voici le gong de la causerie. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'antenne de Radio Canu, à l'écoute de Radio Canu plus exactement, toujours au 102.2 sur Lyon et sa région, et sur radiocanu.org partout ailleurs, et c'est 22h et c'est l'heure de la causerie, et ce soir dans les studios nous avons Fab.
Bonsoir, et Jean-Yves qui fait l'ouverture, et nous ne sommes que deux, confinés dans la technique, pour ne pas avoir à nettoyer toute la radio. Ouais, parce que ça sent bon le gel hydroalcoolique en ce moment quand même, hein.
C'est ça. avant d'entamer notre causerie avec nos sujets, etc., comme vous en avez peut-être l'habitude si vous nous écoutez régulièrement, on va vous rappeler les contacts pour nous joindre. Donc il y a le mail, c'est lacauseriecanu@gmail.com. lacauseriecanu@gmail.com. Évidemment, vous pouvez retrouver la causerie sur le blog de l'émission, enfin les podcasts, etc., les infos qui vont avec, les liens, les trucs et les mûches. Eh bien, ça se passe à...
Les trucs et les mûches, c'est pas
oui,
mal.
Oui, bah oui, les trucs et les mûches. Et peut-être même des schmilblicks. Attends, j'étais où là ? Sur le blog.
Oui,
et
le
donc,
blog,
c'est
blog.
Je ne sais plus.
C'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie, blogs au pluriel, .radiocanu.org/lacauserie. Ou sinon, tu peux nous retrouver aussi sur la plupart des plateformes qui diffusent de la musique. Voilà, tu cherches le podcast La Causerie Canu, on est là.
C'est ça. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. On va commencer cette causerie avec Fab, qui va nous faire un sujet en deux temps. Ouais, et
ah oui,
trois mouvements.
Non, pas à chaque fois. Enfin, j'essaie de renouveler mes blagues.
Désolé, je l'ai pris. Eh bien, tu vas nous causer un sujet qui fait beaucoup causer ces derniers temps.
Police partout, justice nulle part. Voilà, en fait, c'est comme ça que j'avais intitulé mon sujet. Parce que depuis quelques jours, que ce soit après la sortie médiatique d'une certaine Camélia Jordana, alors je dis pas certaine parce que ce serait négatif, hein, ce que je dis, c'est plutôt parce qu'il y a des gens qui font semblant de pas la connaître, vous voyez, pour dire mais qui est cette femme, alors que bon, c'est une chanteuse et actrice qui est quand même assez connue, qui dénonçait le racisme de la police comme institution et les peur de plein de monde face à des gens qui représentent cette institution. Ou après la mort de George Floyd à Minneapolis aux USA, le sujet de la police et de ses méthodes est posé de façon urgente, clairement. On pourrait résumer les choses par le fameux ACAB, hein, mais ça allait un peu vite, et puis surtout un slogan, ça fait pas réfléchir, puis ma chronique serait vachement courte. Donc du coup, je vais pas résumer comme ça. Donc la police, je vais rappeler que c'est une création assez récente de l'histoire, hein, contrairement à ce qu'on croit, parce que contrairement à ce qu'on peut lire et entendre à droite et à gauche, hein, à droite et à gauche de l'hémicycle politique, hein, j'entends, non, il n'y a pas toujours eu des policiers dans l'histoire humaine, hein, voilà, contrairement à ce que peuvent affirmer des gens. La police, en tant que telle, et en tant que corps, ça naît en fait entre le 18e et le 19e siècle. Donc c'est assez récent, quand même, hein, dans l'histoire, c'est pas un truc très...
Non, vu sur l'histoire de l'humanité, c'est assez récent.
Ouais, c'est ça, c'est que c'est pas... On peut pas dire, par exemple, il y a toujours eu des policiers.
Oui.
Comme on l'entend beaucoup aujourd'hui, bah non, en fait, c'est pas vrai. Hein. En fait, c'est dans les suites de ce qu'on a appelé l'État moderne, hein. C'est donc une invention récente de l'histoire. En France, la police est censée, selon ses fondamentaux de création, être là pour le peuple et contrôlée par le peuple. Ce qui est important, c'est le « contrôler par le peuple hein, » dans cette phrase.
Est-ce que c'est à peu près partout pareil dans sur le globe ?
Alors oui, c'est des beaux mots, et un peu partout dans le monde, en fait, on a créé la police en affirmant ça, qu'elle était là pour le peuple, pour le protéger, contrôlée par le peuple, tout ça. Bon, on se rend vite compte que c'est pas tout à fait vrai, quand même, hein. Quand même pas non plus se payer de mots. La police, elle serait là pour le peuple avant tout, et pourtant, en fait, depuis sa création, les forces de police à travers le monde n'ont de cesse d'agir comme garde-chaume de la population, hein. Ce qu'on leur demande, c'est de maintenir le peuple tranquille, hein, c'est quand même ça. D'ailleurs, une des premières actions en France des nouvelles forces de police naissantes, hein, a été la répression des émeutes liées aux conditions de travail et à la faim. Voilà. Donc on voit que déjà historiquement, ça colle pas. Évidemment, c'est avec des degrés de violence plus ou moins importants selon les pays, selon les lieux. Hein. Je vais pas non plus faire de grands ensembles, mais on voit bien que quand même, globalement, la police est armée partout dans le monde, ou quasiment partout dans le monde. Donc voilà, ce corps est donc en fait un des piliers de l'État dit moderne, et il en assure la protection contre les aspirations des peuples, je mets des guillemets à ça, bien souvent. Donc l'État est en essence au départ bourgeoise, on voit bien qui sert la police au final. Voilà.
Oui, ça c'est parce que tu as une lecture un peu anarchisante, voire beaucoup,
ouais.
De ce qu'est l'État. Et effectivement, je pense qu'en dehors des anarchistes, il n'y a pas forcément grand monde qui pense déjà qu'au départ, l'État est une représentation...
Bah pourtant, historiquement, il suffit de regarder, d'ouvrir des livres d'histoire et de se rappeler de qui a fondé les différents États à travers le monde. Et vous verrez que... c'est pas forcément les pauvres. Alors, l'image de la police, elle a un certain paradoxe, en fait. C'est que, en fait, donc paradoxalement, je l'ai écrit après paradoxe, ça fait deux fois paradoxe. La police, elle bénéficie d'une image plutôt positive partout dans le monde. Hein. Elle est un objet de fantasme et d'inspiration littéraire et cinématographique. Les séries les plus vues sont celles mettant en scène des policiers. Et ce, dans la plupart des pays ou presque. Il y a une petite exception, qui est assez grande quand même, c'est l'Amérique du Sud, où c'est les telenovelas, en fait, qui sont devant les séries policières. Mais il est quand même à noter que dans toutes les telenovelas, il y a au moins un personnage qui est en lien avec la police. Voilà.
Oui, c'est un personnage récurrent, quoi, le policier.
Oui, voilà, on le retrouve de partout, il fait partie de l'imaginaire, et il est rarement négatif. C'est assez rare quand même, globalement. Hein. Il y a une étude qui avait été faite pour Hollywood, et il est noté quand même que les bad cops, les mauvais flics, c'est moins de 4% des films policiers. Voilà, et que quand il y a un bad cop dans les films, vous inquiétez pas, à la fin, ça finit toujours bien, et il est toujours condamné, il est toujours plus policier.
Oui, c'est ça, sa hiérarchie prend forcément en considération le mal qui a été fait.
Et elle comprend tout ça.
Et elle rétablit la justice.
Et alors, d'un autre côté, c'est aussi assez paradoxal parce que majoritairement, la police, elle est vue comme non intègre dans la plupart des pays. Donc c'est assez bizarre, hein, c'est-à-dire qu'on la fantasme d'un côté et de l'autre côté, en fait, on la voit comme pas intègre, porteuse de problématiques profondes et de rapports de classe marqués. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes issu des classes plutôt pauvres, bah, vous avez plutôt une grande défiance envers la police par rapport aux classes riches. Tiens, ça doit être lié pour qui elle sert. Voilà. Et surtout, dans beaucoup de pays, en fait, la police, elle est vue comme raciste. C'est-à-dire, elle est vue comme pratiquant un racisme latent qui fait partie de ses habitudes. Voilà. Et ça, quelles que soient les études qui ont été faites, quels que soient les pays, moi je me suis amusé à gratouiller à droite à gauche, hein, je ne vais pas vous donner des chiffres à l'appel, ça ne servira à rien. Mais en fait, on se rend compte que ces deux aspects-là, c'est-à-dire que la police s'en prend d'abord aux plus pauvres et elle est globalement raciste, et ça ressort assez fréquemment, et très fréquemment, et notamment dans les pays riches. Voilà, donc il doit y avoir un lien avec ce que je disais aussi au début. Alors, donc souvent vu comme utile, la majorité des citoyens, hein, comme on les appelle maintenant, semble plus enclin à la voir être réformée que détruite, cette police. Ouais. Alors moi, à titre personnel, je pense qu'on peut s'en passer et faire autrement. Mais je ne vais pas là m'étaler tout de suite là-dessus, mais je voulais juste souligner que on est loin de cette espèce de défiance ou du slogan facile, mais certes justifié, tout le monde déteste la police. Non. En fait, dans les faits, c'est pas vrai. Il y a une envie de réforme plutôt qu'une envie de destruction, de disparition.
Alors, peut-être que tu en reparles plus tard, mais en plus, je pense qu'il faut qu'on... Enfin, c'est de quelle police on parle, parce que je pense que là aussi, il y a des... Oh non, c'est vrai.
Tu fais une transition.
Et ça, c'est même pas préparé, amis auditeurs, auditrices. Hein. C'est vous dire à quel point on est prêt pour les grandes radios.
Mais donc oui, c'est vrai, en fait, comme tu le disais, effectivement, c'est très compliqué, parce que la police, c'est un corps complexe en réalité, parce qu'on amalgame tout dans le corps oui. Police. Et combien de ne pas oublier que la police, donc, c'est pas simple à appréhender. Tout y est, donc, comme je disais, amalgamé, du CRS avec sa matraque à l'enquêteur de la police de protection des mineurs. Et en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que les actes négatifs faits par ceux qui répriment sont souvent contrebalancés, ou on essaye de les contrebalancer par les actes positifs faits par les inspecteurs ou inspectrices de la brigade des mineurs, par exemple, qui vont protéger des enfants, ou qui vont aider à sortir une femme battue d'un appartement, ou des choses comme ça. Sauf qu'en réalité, c'est un choix d'avoir amalgamé tout ça dans les forces de police. On pourrait tout à fait imaginer que les gens qui font des enquêtes et qui protègent les enfants ne dépendent pas de la police, en fait, mais qu'ils aient des droits qui leur permettent d'enquêter, mais qu'ils n'en dépendent pas. C'est vraiment une volonté d'avoir une espèce de corps très complexe, et surtout où on peut toujours retomber sur une branche positive, à un moment donné.
Une volonté de qui ?
En fait, dès la création de la police, il y a l'idée que la police va réprimer, donc il faut qu'il y ait une contrepartie positive. Et en fait, dans la plupart des textes fondateurs des polices à travers le monde, il y a cette idée qu'il faut qu'il y ait un bonus pour le peuple. Voilà. Donc on essaye de toujours créer, avoir une espèce de chose où on peut dire, ils vous ont tapé taper dessus quand vous avez fait grève, mais quand même, quand on vient vous cambrioler, vous êtes bien content de les appeler. Vous voyez, c'est un exemple un petit peu comme ça que j'essaie de donner. Donc ça sert un petit peu une façon de présenter les forces de police et de présenter l'outil police, en fait, le corps d'État police, et qui, en fait, est assez pratique au niveau de la communication. C'est un peu une stratégie de communication et on voit bien que ça fonctionne parce que c'est compliqué de dire on n'aurait pas besoin par exemple de la brigade de protection des mineurs et ce serait un petit peu surréaliste de dire ça quoi voilà. Sauf qu'en fait on s'est amalgamé avec le même gars que celui qui va avoir écrasé la cage thoracique d'un gamin pour l'arrêter qui a 14 ans et qui sort qui risque de perdre un œil, vous voyez, c'est un peu ça, sauf oui. qu'il y a quelque chose qui a fait que c'est des grands ensembles. Donc d'ailleurs, en termes de répartition, les forces répressives sont largement surreprésentées dans le corps de police par rapport aux forces enquêtrices.
T'as un ordre.
Alors, j'ai pas d'ordre d'idée parce que c'est très compliqué à trouver, je vous avoue, parce que ça dépend comment on calcule. Ouais. Mais de ce que je me souviens d'une des études que j'ai lues, c'est 30-70, à peu près.
Ok.
En termes de volume, de nombre de personnes. Donc on voit 30% qui font des enquêtes et 70% qui sont dans la répression ou le contrôle. Donc c'est quand même assez disproportionné. Hein.
Assez.
Et le recours à la police, c'est un choix toujours étatique et toujours contrôlé par elle-même. Et c'est là qu'en fait on tombe sur quelque chose d'assez encore plus ubuesque. La police, c'est un corps d'État, donc, qui est contrôlé par l'État et dont en fait le recours est diligenté par l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas les citoyens, contrairement à ce qui est écrit, c'est bien la délégation de pouvoir que vous donnez à l'État qui fait que l'État peut diligenter la police, y compris contre vous. Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu bizarre quand on y réfléchit. Autrement dit, la population d'un pays est tributaire, toute la population, de la vision qu'ont les tenants du pouvoir du pays de la police.
Oui, mais pour nous protéger, évidemment, nous avons un truc qui s'appelle l'IGPN, non ?
On en avait parlé le 4 août 2019 dans la 308e émission de La Causerie, et c'est pas préparé, je vous jure que c'est vrai. Il a pas lu mon sujet avant. Au-delà de ça, en fait, donc s'il pose aussi, c'est le contrôle, effectivement. Mmh. Or, les contrôles, c'est la police des polices, la fameuse IGPN. Mmh. Sauf que l'IGPN est constitué majoritairement, comme je l'avais expliqué à l'époque, d'anciens policiers. Et comme l'esprit de corps est extrêmement fort au sein de la police, c'est très compliqué en fait que des anciens policiers condamnent des policiers. Vous voyez, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue, je sais pas comment dire, mais c'est un cercle vicieux en fait en réalité quoi. Donc en fait, faire condamner des flics qui abusent de leurs droits faramineux, parce qu'ils ont quand même des droits énormes sur la population, ils peuvent rentrer chez vous, ils peuvent vous sortir de votre véhicule, ils peuvent vous réquisitionner. Et puis, il peut vous tuer. Je vous rappelle que la police a le droit de tuer. Hein, c'est quand même un des rares corps d'État qui a le droit de vous tuer, concrètement. Alors, bien sûr, légitime défense, tout ça. Mais comment on prouve la légitime défense, justement ? En faisant une enquête. Et si l'enquête, elle est menée par des gens qui n'ont pas envie de condamner quelqu'un, ça devient compliqué.
Oui, c'est ça. C'est très compliqué, en fait. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a cette violence légitime, la seule qui existe et qui est autorisée.
C'est la violence d'État.
C'est la violence d'État.
Donc, c'est les corps militaires ou policiers.
C'est ça.
Voilà. C'est eux qui ont le droit d'être violents.
Et ça, là encore, il y a un distinguo sûrement à faire, parce que là, je pense que tu parles que de la police.
Oui.
Dans l'eau, il y a aussi des gendarmes, même si après, leurs secteurs ne sont pas les mêmes, et eux, c'est des militaires.
Vous pouvez amalgamer à peu près ce que j'ai dit. Hein. Il n'y a pas de grosses différences notables entre les deux. Si ce n'est une chose, c'est que les gendarmes relèvent du code militaire, alors que les policiers relèvent du code civil.
Voilà.
C'est ça la différence de base.
Ouais.
Alors oui, mais la police, elle est censée respecter la loi à la lettre. Alors ça, c'est pas de moi, hein, c'est de quelqu'un qui est censé être éclairé, hein, vu que c'est notre ministre de l'Intérieur. J'aime beaucoup déjà quand un ministre dit « est censé respecter », donc déjà qu'il admet lui-même que c'est pas toujours le cas, mais tout ça pour prendre la défense des policiers. Donc on voit déjà que la phrase, elle est un peu ambiguë, il y a un truc qui va pas. Alors, l'une des choses que l'on entend donc le plus, c'est que la police est encadrée hein, par la fameuse IGPN et qu'elle doit suivre la loi à la lettre. Alors, sauf qu'en réalité, on nous dit que c'est un gage de neutralité totale du corps policier. Vous voyez, que ce soit les gendarmes ou les policiers, ils sont neutres. C'est un peu facile, hein, parce que c'est nier que la police n'est pas constituée de robots, mais d'êtres humains. Et que donc, elle peut pas être objectivement neutre. Parce que rien n'est neutre quand c'est fait par un humain.
Oui, voilà. On le rappelle souvent ici.
Mais comme la
causerie n'existe pas.
Moi qui vous parle dans le micro, je ne suis pas neutre. J'ai une position, j'ai un positionnement politique, j'ai une vision de la société. Bon, le policier en face, il a un positionnement politique, une vision de la société. Je veux dire, voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que là, on fasse une coupure musicale tranquillement pour que j'aie le temps d'aller boire un petit coup. Et puis derrière, je reviens un petit peu avec des chiffres et puis je viens vous expliquer, on va un peu élargir le débat, enfin essayer un petit peu de l'élargir.
À tout de suite.
De retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. C'était Mounika, alors M-O-U-N-I-K-A, point d'ailleurs, de Rose et de Colombe. Voilà. J'aime beaucoup ce que fait Mounika.
Ah ben je crois qu'on en a déjà entendu, oui. Vous risquez d'en entendre encore souvent parce que effectivement c'est...
Donc si vous aimez pas, on vous préviendra avant de les passer, vous reviendrez au bout de 3-4 minutes.
Voilà, hein. On vous y fait quoi.
Donc je parlais avant la coupure. Hein.
De la police, des, et tu... partait sur une deuxième partie qui était plus réflexive, plus élargie.
En fait, je vais essayer de répondre aux affirmations qui ont été données à droite à gauche et je trouvais ça intéressant d'y répondre par des faits ou des chiffres parce que on en a, donc autant en donner. Hein, voilà. Donc je vous rappelle que selon Castaner, notre ministre de l'Intérieur, Camélia Jordana ment quand elle affirme que les gens sont contrôlés au faciès. Hein, il a dit c'est faux, c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux. Alors moi je le disais en début de chronique, hein, Camélia Jordana est une actrice et chanteuse qui a affirmé dans une émission grand public que la police tuait et qu'elle tuait plus majoritairement des gens non blancs que des blancs en France. Voilà. Elle a aussi posé le fait qu'elle ne se sentait pas, elle, en tant que personne non blanche, pas en sécurité face à des policiers en France. Bon, elle a juste posé ça, hein. C'était pas ultra révolutionnaire, elle a posé quand même juste ce ressenti de personne. Bien entendu, toute la fachosphère et les élus majoritaires ou non de la République lui sont tombés dessus. Hein, parce que c'est mal de dire du mal de la police, je vous rappelle. Hein. Affirmant même que, comme l'a fait le président de FLAG, hein, l'association LGBT de la police, que la police n'est pas plus raciste que la société. Vraiment ? Vraiment, tu oses affirmer ça, monsieur de FLAG ? Dont je ne donnerai pas le nom, je ne vais pas te faire de la pub en plus. Pourtant, il y a un faisceau d'indices, oui, j'aime bien reprendre les termes de la police, qui ne manque pas pour prouver que monsieur de FLAG et les autres, vous avez tort. Commençons par cette enquête du très gauchiste défenseur des droits.
Ah oui, c'est une institution...
Extrême gauche, tout ça, il veut tuer l'État, on le sait. Non, c'est une institution très gentille d'État, hein, voilà. Qui en 2017 affirmait que les personnes perçues comme noires ou d'origine arabe avaient 20 fois plus de chances d'être contrôlées par la police quand ils sont des hommes. 20 fois plus de chances. 20 fois plus de chances que moi, pour être très clair, voilà. Donc la police ne serait pas raciste, n'aurait pas de clichés racistes reliant la couleur de peau à la délinquance, hein, parce que lié à la pauvreté, c'est toujours le truc qui s'enchemettre, voilà. Mais comment on explique du coup cette disproportion ? Parce que moi j'aimerais bien comprendre. Voilà, c'est quand même... Et puis alors, je vous le rappelle, c'est pas un gauchiste hein, qui dit ça, c'est le défenseur des droits. Donc c'est quand même pas le mec qui a mis toute sa puissance pour pouvoir sortir ce chiffre. C'est qu'il devait être bien évident le chiffre hein, pour qu'il soit obligé de le sortir, vous voyez, c'est le truc. Alors, quand on sait que les contrôles se concentrent à plus de 80% sur certains quartiers, voilà, on comprend d'où peuvent naître les tensions et puis les visions négatives envers la police. Juste comme ça, pour information, moi j'ai la chance, hein, je vais dire ça comme ça, de me balader partout en France, et je vais vous rendre compte que la police est un peu la même partout en France. Hein, c'est pas propre, voilà. Et si vous avez des amis qui ne sont pas blancs ou pas perçus comme blancs, il est très fréquent que ben, vous soyez obligé de les attendre quelques instants quand vous sortez d'un métro, par exemple. Vous voyez, et ça, c'est, il suffit d'être observateur pour se rendre compte que le 20 fois plus, ben, il se constate très facilement en réalité. Voilà. Autre exemple, hein, parce que comme le monsieur de Flag, il a dit la police, elle n'est pas plus raciste qu'ailleurs, je suis allé chercher les chiffres. Je lui ai dit, attends, il doit bien exister quand même des chiffres qui doivent pouvoir nous prouver ça. Alors il y a deux, trois études sociologiques qui ont été faites sur la police, mais la plus intéressante que j'ai trouvée, c'est celle qui analysait les votes des policiers. Alors en 2017, 27% d'entre eux, au premier tour de l'élection présidentielle, n'ont pas voté. Ils ont été abstentionnistes. Bon, bah, en fait, ils sont un peu en dessous de la moyenne nationale. C'est, voilà, ils votent un peu plus que la moyenne nationale. Dans les votants, 1% ont voté à l'extrême gauche, 8% à gauche, 9% au centre, 27% à droite, mais surtout 54% à l'extrême droite.
Ben
ouais. Et bien donc, on ne peut pas dire qu'il soit très représentatif de la société en n'ayant que 10% de personnes de gauche. Voilà. Donc, non, la police n'est pas sociologiquement de la même nature que la société qu'elle est censée protéger.
Oui, et elle n'est pas une représentation de la société.
Alors, pas du tout.
On sait qu'il y a des fascistes en France, ça, évidemment, mais...
Bah, ils sont très très présents dans la police, oui. sans faire d'amalgame, mais quand même un peu. Là, quand même, quand on en est à 54% de vote à l'extrême droite, on peut se dire que c'est quand même beaucoup plus que dans la société en moyenne. Vous voyez, hein, je veux dire, bah, ouais.
Et en même temps, moi, je me dis, ça peut s'expliquer. Alors je
attention.
Non, mais dans le sens.
Ringuissant.
Ouais, non, bah ouais, mais alors je. Bah, c'est-à-dire que souvent les fascistes quand même aiment l'ordre et la sécurité.
Oui, c'est vrai.
Aiment aussi leur patrie et leur drapeau et c'est tout vrai. Ce qui s'y colle et leur roman national. Donc je me dis, de fait, il y a certainement plus de fachos qui se disent, tiens, je vais aller dans la police.
C'est vrai.
Ah, tu vois, elle était pas.
Non, mais c'est vrai. C'est
et je pense que c'est vraiment une piste, à mon avis, qui.
Oui,
il faut essayer de.
Le problème, c'est que c'est problématique.
Ah, mais clairement.
Parce que du coup, la police, tout comme. Alors, je vous le rappelle, les gendarmes, c'est à peu près la même. En termes de vote, c'est à peu près la même répartition, à 1 ou 2% près. Mais en fait, c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est penser que la vision politique que peuvent avoir les policiers n'aurait pas d'incidence sur leur façon de mener leur mission, entre guillemets, en fait, c'est s'illusionner. Parce que forcément, vous avez, ça a un impact. Donc, quand vous avez un corps comme la police qui est constitué à 54% de gens d'extrême droite et 27% de gens de droite, c'est-à-dire 80% de l'électorat, les gens qui votent à droite ou à l'extrême droite, ça a forcément une incidence dans leur façon, dans leur vision et dans la vision qu'ils ont de la société même.
Ah, évidemment.
Donc, ça explique aussi les fameux 20 fois plus de chances d'être contrôlés au faciès. Il faut arrêter de se leurrer, il suffit de relier les deux choses. Bon, bah voilà, vous avez compris, quoi. C'est-à-dire qu'ils croient tous les petits délires du grand remplacement et toutes ces conneries-là. Donc voilà, on en est là. La police vise majoritairement, historiquement, les pauvres. Et ça, par contre, c'est vrai. Et toutes les études qui ont été faites, historiques comme actuelles, sociologiques, prouvent que les pauvres sont plus majoritairement la cible des policiers. Et ça se voit une chose toute bête, c'est que même les bavures policières, vous savez, quand il y a une bavure, ce qu'on appelle une bavure, en gros, souvent une bavure, c'est un meurtre, hein, quand même, il ne faudrait peut-être pas l'oublier, mais quand il y a une bavure policière, en fait, dans 85% des cas, ça touche soit une personne pauvre, soit une personne qui est dans un quartier non pauvre, mais qui est pauvre elle-même et qui est en train de manifester. Vous voyez ? Donc en fait, 85%. Et alors, dans les 15% qui restent, hein, c'est la classe moyenne. Il n'y a pas de riches. Vous voyez, il n'y a pas de gens très riches. Donc, c'est pas logique. C'est-à-dire que si effectivement la police voyait la population exactement de la même façon, quel que soit votre revenu, qui vous êtes, et machin, en fait, vous devriez avoir malheureusement le même taux de bavure dans toutes les strates de la société. C'est pas le cas. Donc on voit bien qu'il y a un problème, quelque part.
Et en même temps, ça rejoint peut-être aussi, là encore, je pars dans une explication qui ne s'appuie sur aucune étude sociologique, hein, je m'excuse devant tous les grands sociologues
non, mais c'est pas grave.
Du temps présent. Non, c'est juste... En fait, ça, ça colle aussi, je pense, avec une vision qu'a l'État lui-même, en fait. C'est-à-dire, je pense que l'État lui-même craint plus une révolte des pauvres qu'une révolte de riches. C'est-à-dire qu'une manif de patrons...
Les riches, c'est souvent les potes de ceux qui sont à la tête de l'État.
Donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça rejoint cette lecture anarchiste de l'État, qui est une représentativité de la bourgeoisie.
C'est ça.
Et donc, tout ça, en fait, je pense que ça se tient relativement quand même.
Mais je suis assez d'accord, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec des outils qui sont pas des outils ultra-gauchistes ou ultra-anards, vous pouvez quand même faire des recoupements qui, quand même, sont pas très complexes à faire, où on se dit, en fait, une fois qu'on a ces trois faits-là devant les yeux, ça explique pas mal de choses. Alors, je vais rappeler que la police, elle tue, c'est un fait, la police, elle tue, la police, elle a toujours tué. Plus hier, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, en France, faut être très clair. Mais depuis la mort de Malik Houssekine, en France, en 1986, la doctrine de maintien de l'ordre a changé. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit, c'est pas très clean de tuer des gens. Faut être très clair. Par contre, ce qu'on a vu augmenter de façon faramineuse, en fait, c'est les estropiés. Alors, on tue moins, mais on mutile plus. Donc, je sais pas si c'est mieux, À mon avis, non. Faut être très clair. Mais en fait, on voit que le fait que les gens meurent n'est plus accepté par la société, mais le fait qu'ils soient mutilés, malheureusement, est accepté majoritairement par la société. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a remplacé le fait de tuer par le fait de mutiler. Je vous rappelle, 201 œils perdus pendant les manifs de Gilets jaunes, c'était les derniers chiffres qui ont été donnés, c'est énorme. C'est-à-dire, alors soit carrément perdu, soit perte de la vision, soit des problématiques après cognitives, mais en fait, on voit que c'était énorme quand même. 201 personnes, en fait, en étant face à la police, se sont retrouvées estropiées. Il y a des mains aussi qui ont été arrachées, il y a des choses comme ça. Et on accepte ça, en fait, comme quelque chose de normal.
Oui.
Alors, pas moi, mais la population dans sa majorité.
Mais parce que je pense que ça repose, nouveau, sur cette légitimité de la violence.
C'est-à-dire, c'est ça. Et qu'en fait, on se dit, oh oui, mais il les tue pas. Sauf qu'il les mutile. Donc, c'est pas beaucoup mieux. Les méthodes d'arrestation sont d'ailleurs à interroger. Bien des morts sont liées à la méthodologie d'arrestation. La mort aux USA de George Floyd, qui est beaucoup médiatisée aujourd'hui et dont on voit la vidéo, qui d'une violence et d'une horreur absolue. Trois policiers qui sont sur son corps et qui l'écrasent et qui finissent par l'étouffer. Il est mort étouffé, quand même. Notamment un qui lui positionne son genou sur la nuque. Ça rappelle à quel point ces méthodes légales peuvent être, létales.
Ouais.
Et c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire qu'on autorise qu'une méthode d'arrestation puisse amener jusqu'à la mort. C'est ça qui est problématique. Alors rappelons que ce type de méthode est utilisé aussi en France. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, à Paris, vous avez une personne, vous pouvez retrouver la photo, elle est facile à retrouver, elle a été prise par un journaliste. Une personne en France subit exactement la même arrestation que George Floyd. Heureusement pour lui, il n'est pas mort. Mais honnêtement, c'est inadmissible de se dire que quelques jours après la mort d'une personne morte avec cette technique d'arrestation, on la pratique exactement à l'identique dans les rues en France. Vous voyez, c'est quand même, ça interroge quand même.
Mais là, on te sortira la bonne vieille excuse et autopsie qui te dira « Mais cette personne était malade du cœur avant !»
Eh ben oui, c'est l'excuse permanente mais s'il meurt, c'est qu'il est porteur d'une maladie. Oui, t'avais pas prévu que je
le dise,
c'est juste là. Voilà. Comme dans le cas d'Adama Traoré, par exemple, en France. En fait, c'est une vieille méthode pour couvrir la police. Mmh. On va prendre ce qui a tué et ne pas tenir compte de ce qui a déclenché la mort. Oui, il était sans doute la personne qui est morte porteuse d'une maladie, d'un problème cardiaque, d'un problème respiratoire ou de ce que vous voulez. C'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est bien l'arrestation qui va précipiter la mort en mettant en route un processus lié à la maladie qui entraîne la mort. Et en fait, c'est exactement le vieux truc de dire non, mais c'est pas l'arrestation. C'est un petit peu comme quand on dit cette personne, elle est morte d'une rupture d'anévrisme en oubliant de vous préciser qu'elle a vu un accident de voiture 1 heure avant. Vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait non, ce qui a tué la personne, ce qui a déclenché l'anévrisme par exemple, c'est l'accident de voiture. Et de la même façon, ce qui a déclenché la mort de la personne, même si elle est porteuse de quelque chose, d'une maladie quelconque, c'est la méthode d'arrestation. Or, principe de précaution, je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un virus là qui encore se balade, qui tue 2% des gens. Qu'est-ce qu'on a dit? Faut s'en protéger parce que 2% des gens, c'est énorme, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Là, on estime qu'avec la méthode d'arrestation par étouffement, plaquage ventral, ça s'appelle, par plaquage ventral, on estime qu'il y a un taux de létalité qui est de l'ordre de 3%. Donc on accepte l'idée que 3% des gens arrêtés comme ça vont pouvoir ou vont peut-être mourir. C'est juste extrêmement grave, en fait. Voilà. C'est un chiffre qui a été sorti aux États-Unis, en fait, où il y a eu des études qui ont été faites dessus. En fait, ils ont repris la population, ils ont repris les maladies qui potentiellement pouvaient entraîner la mort. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on peut mourir même sans maladie. Hein, parce que le poids de 3 personnes sur votre cage thoracique, vous pouvez mourir. Hein. Mais ils ont dit, mais si en plus vous êtes porteur d'une maladie cardiaque ou d'une maladie respiratoire, vous avez 99% de chances d'y rester. Et en fait, ils disent, mais ça fait 3% de la population. C'est énorme. On accepte l'idée que bah, les policiers, bon, allez, par hasard, comme ça, ils peuvent tuer 3%.
On appelle ça comment dans la guerre ? Dommage collatéral.
Ouais, voilà. Donc de même, on va parler de l'outillage de répression. Les tasers, flashballs et autres mutilent et tuent. Ils sont pourtant à la ceinture de bien des policiers en France. Ils sont même maintenant à la ceinture d'agents de sécurité qui ne sont pas policiers. Donc il faut quand même, à un moment donné, se poser des questions là-dessus. Et faire plus que se poser des questions. Je pense qu'il faut arrêter avec ça.
Et certaines armes, par exemple, comme je crois que c'est le LBD dans certains pays, il est...
En vente libre.
Ouais, et dans d'autres, il n'est pas utilisé par les...
Ah, dans d'autres, il est interdit.
Je crois que c'est Belgique ou... Je ne sais plus.
J'ai pas les pays, mais par contre, je sais qu'il a été interdit dans plusieurs pays parce que justement, il mutilait.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, on sait que c'est pas juste un moyen de se protéger pour les flics, mais bien un moyen de réprimer sur ordre. Faut arrêter de se leurrer. C'est pas un truc qu'on leur met à la ceinture pour qu'ils se protègent.
Et tu prends pas du LBD dans la tronche parce que... Par hasard. Quoi.
Alors surtout, théoriquement, t'es pas censé en prendre dans la tronche, qu'on n'est pas censé te tirer au niveau de la tête.
C'est ça.
Hein, je veux le rappeler.
C'est ça.
Donc c'est que dès le départ, le rôle de la police était à interroger, et en profondeur. Donner un pouvoir légitime de violence, c'est donner en fait un pouvoir immense à quelques humains au milieu de millions d'autres. Et dans ce pouvoir immense, il y a le pouvoir de pouvoir tuer quand même. Je le rappelle. Mais alors pourquoi on parle plus de violence aujourd'hui qu'avant ? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on en parle plus. Eh bien, les exactions policières, elles ne sont pas nouvelles. Hein. On peut s'étonner qu'aujourd'hui le débat sur les violences policières prenne plus d'ampleur et que même dans une émission somme toute assez naze du samedi soir, quelqu'un puisse sortir quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas en fait tellement nouveau qu'on puisse le sortir. Il y a déjà des gens qui en parlaient. Ce qui est nouveau, c'est les moyens. Et c'est ça qui en fait emmerde énormément les flics. Avant, dans les milieux militants, on avait des habitudes. Vous savez, il y a des gens qui, depuis 1968, relèvent toutes les bavures policières et font des livres dessus. Ils sont extrêmement bien faits et tout. Sauf que c'était sans photos, sans images, avec juste des on-dit ou alors avec les enquêtes de l'IGPN ou des choses comme ça. Là, ce qui se passe et ce qui se provoque et qui a changé, c'est le rapport à l'image. Depuis l'apparition des caméscopes et encore plus depuis l'apparition des smartphones capables de filmer rapidement et en direct, les preuves des violences policières, elles sont là. Elles sont devant votre nez, en fait. Et vous pouvez plus les nier. Et c'est ça qui embête les policiers. C'est qu'avant, ils pouvaient faire des choses, et puis après, c'était parole contre parole. On n'avait pas vu, donc si c'est pas vu, c'est
oui,
pas su.
Souvent, hein. Le pot de fer contre le pot de verre.
Bah oui. Et là, il devient plus difficile pour les policiers de nier et de se couvrir les uns les autres. Parce que vous avez les images, parce qu'on sait ce qui s'est passé concrètement. C'est une force que nous avons aujourd'hui face à la police. Une vraie force de contrôle. Et il faut vraiment continuer à les filmer. Il faut filmer les abus de la police. Il faut continuer à les diffuser. Parce que c'est cette force-là qui fait qu'aujourd'hui, on a mis sur la table, enfin, et à mon avis, trop tard, mais il faut, tant pis, il faut le faire maintenant, les violences policières et l'interrogation face aux violences policières. Donc, diffusion, relayons, etc. C'est une des meilleures armes que nous ayons. Alors, je sais que ça les irrite beaucoup, parce qu'un certain Ciotti, un gars qui, je pense, bon non, je vais pas le dire, mais il lui manque qu'un imper noir. En fait, Éric Ciotti veut faire une loi qui interdit et qui veut punir les gens qui filment les policiers. Mais c'est juste aberrant. Je vous rappelle que théoriquement, la police est sous le contrôle de la population.
Oui.
Donc, alors, c'est quoi le contrôle ? C'est juste, tu leur dis, hey, monsieur le policier, c'est pas bien bien ce que tu fais. Non, mais faut arrêter. Si la police est sous le contrôle de la population, je ne vois pas pourquoi la population ne pourrait pas filmer des policiers, tout simplement.
Et surtout, ce qui est marrant, c'est que ça vient d'un tel personnage, adorateur de l'ordre, de la sécurité et des caméras.
Et de la vidéosurveillance.
De la surveillance. Bah là, alors peut-être qu'il faut dire qu'on fait de la vidéoprotection des policiers en filmant.
Voilà, on va dire
hein,
ça.
On va jouer sur la sémantique, parce que c'est bien ça l'art des politiciens.
Bah d'ailleurs, c'est étonnant, hein, mais les policiers, ils refusent d'avoir une caméra qui filme ce qu'ils font 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, comme proposé par plusieurs personnes, associations, même des élus, hein, d'ailleurs, qui l'ont proposé. Alors, vous savez, c'est une petite caméra qu'on met à la poitrine des policiers et qui filme tout ce qui se passe. Pour votre info, il y a des pays où c'est aujourd'hui obligatoire. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, dans les pays où ça a été rendu obligatoire, ben, en fait, le nombre de bavures policières a diminué. Au bout du temps, c'est magique. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. L'argument des policiers, c'est de dire, mais on serait contre comme n'importe quel salarié qui n'aimerait pas être filmé toute la journée. Alors, il y a une petite nuance, mais légère, hein, et c'est un argument très fallacieux. Les autres salariés, ils n'ont pas le droit de tuer des gens. À partir du moment où on te donne le droit légalement de tuer des gens, bah, je suis désolé, mais si on te demande de pouvoir filmer ce que tu fais pour vérifier, a priori ou a posteriori, par le visionnage des vidéos, que ce que tu as fait et que tu n'as donc pas tué quelqu'un illégalement, bah, ça ne me choque pas. Ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais moi, ça ne me choque pas. C'est juste à un moment donné, en fait, que bah, il faut aussi que au droit, bah, soit adossé des devoirs. Voilà, tout simplement. Alors, le refus systématique, on dit long hein, quand même sur l'intégration par ce corps de l'habitude de faire ce qu'il veut, plutôt que ce qu'ils doivent, en fait, concrètement. Alors oui, se passer de la police, parce que je voulais finir comme ça. Alors, vous l'aurez compris, je pense qu'il est urgent de penser à un monde sans police, hein, vraiment. Et cela ne signifie pas un monde où chacun pourra faire ce qu'il veut et tuer qui il veut. C'est pas, encore une fois, ça, c'est pas du tout ce que je prône. Hein. Mais bien penser autrement le rapport à l'application des règles communes et à la protection des plus fragiles. Voilà. C'est pas un débat simple, je pourrais pas l'expédier là en 10 minutes en fin de chronique, et c'était pas mon but, mais je peux vous inviter à creuser de votre côté les écrits, anarchistes ou non, sur les sujets de l'ordre moins le pouvoir ou d'une société sans police. Il y a tout un tas d'écrits qui existent, donc essayez de les lire, vous voyez que finalement c'est une habitude qu'on a d'avoir des policiers, une vraie habitude, c'est pas quelque chose de logique, voilà. Et donc il faut se rappeler aussi qu'une enquête, c'est pas juste faire avouer l'autre, c'est aussi à un moment donné apprendre à la société à comprendre pourquoi les choses ont eu lieu, vous voyez. Il faut revenir à ces choses-là. Et du coup, bah, cela m'amène aussi après à repenser la justice, l'organisation de la société, l'État, tout ça. Vaste programme, je sais. Voilà.
Et ben moi, parce qu'on n'est un peu à la bourre, mais juste aussi un petit conseil aux auditeurs et aux auditrices. Quand vous voyez une arrestation qui vous semble plus que étrange, un contrôle, etc., vous avez le droit de rester. Jouez pas les fangio, parce que ça pourrait se retourner aussi contre la personne qui est en train d'être contrôlée. Mais restez là. Juste restez là. Regardez, parce que vous en avez le droit. Filmez, parce que vous en avez le droit. Et juste voilà, c'est aussi. Enfin, je pense que si on peut jouer sur des choses comme ça quand on est face à des situations où vous dites non mais ça pue complètement, et ben restez, observez, parce que des flics sous pression, ils aiment pas ça du tout, bizarrement. Et ben
musique.
Et bien allons-y.
À mes poignets des bijoux, à mes poignets des bijoux. Fermés, liés à mes pieds, dans mes veines des bateaux, dans mes veines des bateaux. Si beau dans la Seine, le poids des eaux. Dans la Seine, le poids des eaux. Il court depuis le grand saut. Un peu de bruit, toujours laver mes racines dans ma tête des idées. Ça dit le couteau dans les rafales, mes adieux. Ma ville des robots, des filles.
Coucou toi, tu es de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et comme il y a des gens qui ne savaient pas qui était Camélia Jordana, je me suis dit je vais passer un morceau de Camélia Jordana, donc c'était Daoud. Voilà.
Et bien très bien.
Moi j'aime beaucoup. Voilà, je le dis.
Ok.
Même pas peur.
T'es courageux, dis donc.
Et donc, Jean-Yves, toi, tu voulais nous présenter un livre.
Ouais, ce soir, j'ai envie de vous parler du livre « Départ volontaire » de Jean-Luc Debris. Debris. Aux éditions Noir et Rouge. Alors, vite fait, l'auteur, il a plusieurs écrits à son compte. Je peux citer les trois derniers. C'était donc un essai en 2008. Tous propriétaires, du triomphe des classes moyennes, dans lequel l'auteur montre comment le style de vie des classes moyennes a réussi à s'instituer en idéologie de l'aliénation désirée. En 2012, il a publié aux éditions de l'Échappée le Cauchemar pavillonnaire. Je ne vous fais pas trop de détails là-dessus, d'explications. Et donc en 2014, le livre dont je vais vous parler ce soir, aux éditions Rouge et Noir, donc Départ volontaire.
C'est plutôt un roman, ça.
Oui, c'est un roman. C'est tout à fait ça. Alors, Départ volontaire, ça nous plonge en milieu hostile, autrement appelé travail, si ça vous parle. Donc nous voilà chez Cousin Poirier, entreprise autrefois familiale qui, de rachat en rachat, est devenue une filiale d'un groupe mondial aux activités diverses que certains nomment la pieuvre. Vous voyez un peu le truc, multinationale, tout ça. Et pour citer le livre et de vous donner un petit peu le ton du livre, il y a cette explication-là. Cousin Poirier est un des rouages opérationnels de la mise en place de solutions innovantes dans le domaine de la gestion de flux logistiques. Il est de bon ton de préciser, en prenant soin d'afficher un air entendu, que l'activité de Cousin Poirier, en particulier et de la MNB en général, va de l'input à l'output. On le dira de la sorte si, bien sûr, on veut mettre en évidence la nature professionnelle de son vocabulaire. Un rien de banalité dans l'intonation et l'expression du visage ne nuira pas. Bien au contraire, à l'effet produit. Entre pairs, on se doit bien ça.
Ah, mais c'est un petit peu Amazon.
Oui.
Ça y ressemble un peu.
Je pense que ça peut parler à plein de gens et dans plein d'entreprises différentes. Donc vous l'aurez compris, un grand groupe avec son vocabulaire, ses anglicismes et aussi une gestion du personnel, un management inspiré des meilleures écoles et des meilleures techniques. Donc on est plongé dans ce monde de l'entreprise, d'une entreprise dont la direction déclara l'état d'urgence suite à la crise. Donc, entreprise en réorganisation, où tout le monde se méfie de tout le monde et où il faut accepter ou non, je cite, les sacrifices nécessaires au redressement de l'entreprise. Vous voyez un petit peu le climat, l'ambiance ?
En ce moment, il y a plein de gens dans leur boîte qui vivent ça.
C'est ça, je pense qu'aujourd'hui, ou même par le passé, et encore dans le futur, tant qu'on ne renversera pas tout, on sera nombreux à pouvoir vivre ce genre de situation-là et de climat. Et donc on goûte aux réunions du personnel où, je cite encore, la nécessité de renforcer les motivations individuelles devienne un indicateur pour la direction. On fait connaissance des salariés aussi et on entre en fait on rentre carrément aussi dans la vie de l'une d'elles en fait qui s'appelle Odile. Odile, cinquantenaire, assistante commerciale dans l'entreprise. Depuis des années, elle a l'esprit assez occupé quand même par son passé, on va dire, qui est son divorce, son fils qui la fuit et en même temps, elle a pour habitude aussi de s'évader, de s'amuser, discuter, rire avec une amie à elle qui s'appelle Sandrine. Donc on va suivre aussi tous ces moments-là de discussion, etc. Et au travail, Sandrine, elle est plutôt discrète, elle bosse, elle fait pas vraiment de vagues. Bien qu'elle vienne d'une famille syndicaliste, elle a pas trop voulu se syndiquer parce qu'elle a une proximité avec les cadres et tout ça. Elle voulait pas trop. Et un jour, en fait, son N plus 1.
Il faut parler entreprise.
Oui, excuse-moi, je suis pas habitué, je suis désolé. Donc un jour, son N plus 1, lui propose un changement de travail, de statut, en évolution, certains diront. Et en fait, j'avais envie de vous lire au moins une partie de cet échange qu'il y a à ce moment-là, en fait. D'un coup de clavier, Odile devient cheftain. Monsieur Charles Lebrun, au mieux de sa forme, la déclara pompeusement animatrice de l'ensemble des assistantes commerciales. Animé, tu sais, Odile. Le tutoiement signifiait qu'entre eux, une chaleureuse fraternité rendait leur collaboration conviviale. Donc, tu sais, en prenant un air inspiré, cela consiste à donner une âme. Tu vas nous âmer ton équipe, dit-il en affichant sa mine de petit personnage content de lui. Nous comptons sur ton professionnalisme, hein, ton savoir-être, hein, pour relever ce nouveau challenge. Tout en s'adressant à Odile, il jette des coups d'œil furtifs sur l'écran de son ordinateur, guettant un courriel de Bruxelles. C'est le siège. Il affectionne ces mots, challenge, savoir-être, et par-dessus tout, le plus goûteux de tous, le faire savoir. Ces mots roulaient dans sa bouche avec une fraîcheur désaltérante. Il poursuivit, tout requinqué qu'il était par leur saveur vivifiante. Ce qui est essentiel dans ta nouvelle mission, vois-tu, Odile, c'est la notion de liaison fonctionnelle et d'activité pédagogique permanente, comme, la formation à l'ERP, l'Enterprise Resource Planning, mais aussi de bons conseils que tu leur donnes, tu vois, hein, benchmarker les bonnes pratiques, quoi. Et le tutorat, tiens, hein, tu sais, le tutorat, comme avec Annabelle, tu animes son équipe, tu animes ton équipe, quoi, hein. Pas compliqué. Tu animes le pool des assistantes commerciales. Il se penche sur ses notes et lit la circulaire rédigée par la divine. Petite précision, la divine, c'est la DRH. Sa voix se fait hésitante, puis gagne en assurance à mesure que les syllabes se détachent du vide auquel elles étaient accrochées. Sur sa lancée, il débute sans trébucher la fin du paragraphe. Tu animes des salariés dont l'emploi nécessite la maîtrise de plusieurs spécialités mises en œuvre de façon coordonnée. Un process complet de la prospection à l'encaissement. Son débit saccadé l'essoufflait. Tu vois, rien de bien neuf, hein. Les filles connaissent leur boulot, hein. C'est bien cadré tout ça, hein. Depuis le temps, toi tu connais leur job, hein. Le tout est d'aller tous dans le même sens, au même rythme, hein, dans le respect des procédures, hein. Tu vas faire du team building. Odile eut pitié de lui, ce qui était pitoyable, c'était ses efforts pour tenir le personnage. Voilà un petit peu quand même...
Ouais. Le ton. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a les 1 écrits, hein, parce que ouais. Voilà. Et c'est typiquement ce qu'on retrouve en entreprise quand un cadre doit vous dire quelque chose en fait qu'il ne maîtrise pas et qu'on lui a demandé de vous dire. Voilà. Et je trouve que c'est hyper bien rendu.
Mais je trouve aussi. Et un jour, donc la divine, hein, la DRH et ses sbires décident d'une opération fitness. C'est comme ça qu'elle se dénomme cette opération. Et ce qui veut dire, vous l'aurez compris, hein, il faut dégraisser. Et forcément, hein, la chef qui est devenue Odile, eh ben elle va devoir y contribuer. Comme le lui dit la divine, surnommée la DRH. Ah, Odile, comme je suis heureuse de te rencontrer, lui dit-elle. On me dit le plus grand bien de ton travail. Charles est dithyrambique à ton sujet, et tu sais combien je l'estime. Je vais être direct, ce n'est pas mon genre de tourner autour du pot. Bon, tu es une parfaite animatrice. Et c'est justement à ce titre que je voulais te parler. Voilà, tu n'es pas sans savoir que nous sommes engagés dans une opération fitness. Je veux dégraisser en douceur. Pour ça, je vais avoir besoin de toi. On a ouvert un guichet pour les partants. On n'est pas chien. Si besoin est, on finance les formations pour faciliter les reconversions. C'est correct, non ? Bon, le hic, c'est que pour l'instant, les volontaires ne se bousculent pas aux portions. Alors, on va être obligé de pousser quelques personnes vers la sortie. Mais sans faire de vagues, hein. Hein, pas de vagues, pas d'hystérie ni de blabla revendicatif. Pour toi, ça va être assez simple. J'ai besoin d'un dossier sur une seule personne. Et Odile, eh ben, elle va œuvrer à l'opération fitness. Bah oui, hein, c'est dans le cadre de son emploi. Sauf que bah, tout cela, bah, ça la laissera pas indemne en fait. Parce qu'on peut peut-être se demander et si c'était elle en fait la prochaine. Bref, je vais m'arrêter là pour ne pas trop en dire quand même sur ce petit roman de 102 pages qui se lit très très rapidement. J'ai adoré, moi, cette immersion, en fait, dans ce monde sans éthique qu'elle travaille, où l'on broie l'humain comme on broie une noix. On n'en a absolument rien à faire. Et il n'y a pas d'individualité, quoi. C'est-à-dire que vous êtes tous des numéros, nous sommes tous des numéros, et voilà. Donc, les descriptions sonnent juste, effectivement, entre les vainqueurs, les arrivistes, la nouvelle génération, la plus ancienne. Je vous en dis pas trop, mais l'ancien, enfin, le N plus 1, il est peut-être un petit peu ancien. Et évidemment, celles et ceux qui se vendraient en fait pour être parmi les prétendus vainqueurs de cette course au salariat et à la plus belle place. Donc voilà, vraiment, je vous invite vraiment à le lire. Il est super, super accessible. Donc c'est Départ volontaire de Jean-Luc Debris à aux éditions Noir et Rouge. Et il a un petit prix de 8 euros. Voilà, et ça se trouve sûrement un peu partout. Et ben, on fait direct une coupure musicale.
Ouais.
Avant de passer au bref et tout ça, tout ça. Ciao, à tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canu, toujours au 102.2 sur Lyon évidemment, et sa région, et sur radiocanu.org partout ailleurs. Et on vient de s'écouter un délicieux titre puissant comme d'habitude avec Altarba et Senbei, et le titre c'était Rakshasa.
Ouais.
Eh bien, c'était bien. Ah ouais, moi j'adore de toute façon.
Et tu as vu, c'est le retour des brèves.
Oui.
Et oui, parce qu'il se passe de nouveau des choses, on est déconfiné, ça y est, enfin.
ça
fait du bien. Alors, on va rappeler que toute la semaine, hein, il y a une permanence d'aide aux travailleurs sans papier du lundi au vendredi de 10h à midi à l'Union départementale CGT 215 cours Lafayette, et c'est dans le 6e.
Et mardi, 2 juin, c'est un pique-nique revendicatif et manifestation pour l'hôpital et pour plus de moyens. Donc 12h30, 14h30, c'est pique-nique revendicatif devant l'hôpital, place d'Arsonval, métro Grange Blanche.
Ah, c'est l'hôpital Grange Blanche en fait, Edouard
Herriot. Ouais, c'est Edouard Herriot, ouais. Et par contre, de 14h30 à 17h30, c'est rassemblement devant le Vinatier, pardon, qui est au 95 boulevard Pinel à Bron, métro T6 ou ligne C8.
Et peut même le rejoindre à pied, ça fait pas trop loin.
C'est à côté. Hein.
C'est à côté,
ouais. Vraiment, c'est pas loin, ouais. Du tout les deux, quoi.
Et sinon, le jeudi 4 juin, il y a un appel aux dons pour soutenir le marché rouge de la Guillotière, et puis il y a aussi la reprise des distributions. Donc rapprochez-vous du marché rouge de la Guillotière si vous avez des fruits et légumes à leur donner. Et puis elle a retour de la distribution après 2 mois de confinement et l'arrêt de son activité. Le marché rouge reprend du service au 45 rue Béchevelin, j'arrive jamais à le dire, dans le Lyon 7, plus que jamais déterminé à nous fournir des légumes pas chers, tous les jeudis à 17h. Voilà, c'est à l'espace communal de la Guillotière. Et
Eh bien, je crois que c'est tout. On est quasi à l'heure. On va rendre quasi l'antenne à l'heure parce qu'en plus ce soir l'émission qui est d'habitude pas vraiment là, elle est là ce soir. Big up à Daline.
Et il rend un hommage. Soir, il repasse une émission. Donc voilà. Donc restez. Vous allez voir, ça va être très très bien.
Et bien voilà. Et donc on se quitte en musique.
Oui, avec.
Avec dès que j'ai retrouvé mon petit ticket.
Tu le caches.
C'est ça. C'est une proposition que Clara nous a fait. Qui même si elle n'est pas là, elle est avec nous quand même. C'est le titre de Joe Hisaishi avec le titre Stroll Through the Sky. C'est une BO,
non ? La bande originale du film Le Château Ambulant.
Du film dessin animé.
Dessin animé. Mais on dit film dans ces cas-là.
Ok, pardon.
C'est du Miyazaki, c'est un film.
Ok.
Voilà.
Excusez-moi. Non. Comment ?
Ah ouais, alors là t'es vache là. Le château ambulant, c'est facile à dire pour répéter.
Voilà. Le château. C'est Joe Hisaishi. C'est le Joe Hisaishi. C'est le celui qui écrit la chanson. Mais non, ça vient de loin. Ça vient d'ailleurs.
Du Japon, en l'occurrence.
Voilà. Bon, et ben voilà, on vous.
Et ben la semaine prochaine, restez à l'écoute de Radio Canu et tu arrives tout de suite.
Moi,
ouais.
Bah, normalement. Ouais.
Ouais. Oui, David est là, il va prendre
David
la suite.
David est là, il prend la suite. Exactement.
Et ben allez, on souhaite bon courage pour la semaine à venir. Ouais. On vous dit, c'est ça, à dimanche prochain.
Des bisous.
Salut. Ciao.